Attention, l'œuvre que vous allez entendre est immorale et peut choquer les personnes de tout âge. Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, La spirale de verre. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Les hommes et sont prêts à tout. Peut-être que Frédéric, comme les autres, mais il ne laissera pas faire. Il va lui apprendre à jouer les hommes. Tiens, surtout que lui sait qui il est vraiment et ce qu'il aime. Et par fierté, il peut changer de coup à cause des filles. Ça s'est vu. Il voit Gilbert plus loin avec une jeune fille et un jeune homme. C'est Nathalie Julien, il se dit. Et dire que ce gamin est l'homme le plus riche du monde, et moi je ne suis rien. Lui, il peut tout. Il peut tout ce qu'il veut. Tiens, peut-être que ces deux-là, ils sont peut-être fiers d'être choisis. Et la grande rousse, qui danse avec mon père, une vraie pute de luxe. Il a bien envie de partir, de rentrer et d'attendre Frédéric dans sa chambre, où il ira voir sa mère, pauvre maman, qui souffre dans son lit pendant que son mari drague une pute. Il s'apprête à aller vers la sortie, lorsqu'il est arrêté par un jeune homme blond, mince, élégant, dans les 23 ans, smoking noir. Il a un très beau visage. Le jeune homme lui demande, vous alliez partir? Eric lui dit, oui. Le jeune homme lui dit, je suis Harold. Eric lui dit, j'aime pas les vieux. Harold lui dit, je suis pas si vieux que ça. Et puis, j'ai eu comme ami un jeune marin de 15 ans. Eric lui dit, c'est du propre. C'est pas ce que vous croyez. Et vous? Eric lui dit, moi, j'aime la solitude. Les gens m'ennuient. Harold lui dit, comme tous les jeunes gens. Si vous désiriez partir, nous pourrions aller chez moi. Eric lui dit, non. J'attends mon frère. Harold lui dit, ah, la famille, vous êtes le fils de Bosch. Oui, moi je suis le sous-directeur général du groupe Tremblant. La grande rousse, elle est la directrice des relations humaines. Eric lui dit, c'est une fête de salariés. Oui, presque. Eric demande, et quelles sont ces deux personnes qui sont près du président? Ce sont des amis. Il y en a beaucoup, beaucoup veulent en être, mais lui est très difficile. Moi-même, J'aimerais bien, n'est-ce pas, qu'il est beau. Eric lui dit, peut-être. Il voit son frère. Harold le voit aussi, lui dit. Celui-là aussi est très joli. On dirait un ange. Eric lui dit, pour le moment, il n'est pas très ange. Et puis c'est mon frère. Harold fait, excusez-moi, j'ai toujours des gaffes. Avec le président, enfin, c'est du passé. Frédéric quitte ses demoiselles. Tout excité. Il va aller aux toilettes se rafraîchir un peu. Il fait tellement chaud. Les filles le regardent partir et son frère aussi. Eric est furieux. Il dit à Harold, excusez-moi, mais je dois vous quitter. Et il se dirige où a disparu son frère. Il le retrouve dans une magnifique salle de bain. Frédéric ouvre le robinet du lavabo, robinet doré à l'or fin. La salle de bain est en marbre noir. Son frère fonce sur lui et lui met la tête sous l'eau. Il lui dit, salaud! Frédéric essaie de sortir de son étreinte. Il en a assez. Il ne peut plus. Il est mouillé de partout. Lâche-moi! Lâche-moi! Eric lui met encore la tête sous l'eau et lui dit, ça t'apprendra à faire un joli corps avec cette pimbèche. Tu es à moi. Rien qu'à moi. Il le retourne, le secoue. Frédéric, le visage, les cheveux trempés, essoufflé, lui dit « Tu es complètement fou! Tu es complètement fou! Je suis la personne! Et surtout pas à mon frère !» Eric lui dit « Tu vas voir, ce n'est pas à moi !» Il le plaque contre le lavabo. Et lui déchire sa chemise. Frédéric d'un bond se dégage, donne un coup de poing au ventre. Eric se penche de douleur sur son ventre. Salaud! Frédéric lui donne un coup de pied au mollet pour qu'il lui laisse le passage. Eric tombe à terre. Frédéric court vers la sortie de la salle de bain. Eric se relève et fonce sur lui. Il le fait tomber à terre. Le plaque contre lui et lui dit, maintenant tu es à moi. Tu es à moi. Tu m'entends? La porte s'est ouverte d'un bond. Et pousse les deux garçons. Ce qui libère Frédéric, qui se retourne. Il a Eric sur lui. Gilbert voit. Il a ouvert la porte et voit avec surprise les deux garçons se battre à terre, l'un contre l'autre. Avant de pousser la porte, avec force, il ne savait pas qu'il empêchait de l'ouvrir. Il voit les deux garçons se battre avec rage. Gilbert leur crie, « Relevez-vous, immédiatement, vous êtes ici chez moi !» du garçon continuent à se battre. Gilbert va à la baignoire, prend le panneau de la douche et la met en route. Il mouille les deux garçons, qui sont tous les deux trempés et baignent dans l'eau. Il se relève essoufflé. Gilbert ferme l'eau et leur dit « Sortez de chez moi !» Les deux garçons sortent de la salle de bain. Gilbert les suit. Gilbert voit Harold, lui montre ses deux garçons et lui demande « Qui sont ces deux énergumènes ?» Harold lui dit « Les fils de Bosch !» Gilbert lui dit « Drôle de gens !» et il se retire. Il retrouve Julien et lui raconte ce qu'il a vu. Julien lui dit « Drôle de gens !» Tu as vu comme leur père s'est comporté avec Judith? Ils ne doivent pas être fréquentables. Gilbert lui dit, je suis en affaire avec eux. Julien lui dit, surveille-les. Et la soirée se continue. Les deux garçons sont rentrés chez eux, boudeurs. Ils sont rentrés à pied sans rien se dire. Arrivé à l'appartement, c'est la botte qui leur a ouvert. Ils vont directement à leur chambre. Avant d'entrer dans sa chambre, Eric lui dit, « T'es comporté comme une pute, tu vas voir. » Frédéric lui dit, « Non, je ne verrai pas, je veux plus que tu te viennes. » Eric s'approche de lui et lui dit, « Qui m'en empêchera? Père est bien trop occupé avec les filles. Il est aussi dégoûtant que toi. Mère, elle est souffrante. Les grands-parents, ils se fichent pas mal de nous. Frédéric lui dit, moi. Eric lui dit, même pas toi, parce que tu en as besoin. Frédéric hausse les épaules et entre dans sa chambre. Il est furieux. Il veut que ça cesse. Depuis tout à l'heure, malgré qu'il n'avait pas le dessus, il sait qu'il peut se battre avec son frère. Il est devenu suffisamment fort et grand. Et puis son frère n'est qu'un primaire. Lui, il vaut mieux. Le lendemain matin, durant le petit déjeuner que la famille prend au salon, le père furieux leur dit « Il paraît que vous vous êtes battus comme des chiffonniers et que le président était obligé de vous séparer. Vous battre dans la maison du président et devant lui. Vous vous rendez compte? Il a dû nous prendre pour qui? Il est obligé lui-même de vous mettre à la porte. Quelle honte! J'étais obligé de présenter mes excuses. Le président doit être furieux contre moi et vous. Puis, tout Paris va savoir que j'ai des fils indignes. Qu'avez-vous à dire ? » Eric lui dit, « J'ai fait une réflexion sur la façon dont se comportait Frédéric et ça ne m'a pas plu. » Le père demande, « Et comment se comportait-il ? » Eric lui dit, « Comme un fou. Il avait une tenue déplacée avec les filles. » Eric lui dit, « C'est tout à fait faux. On se comportait tout simplement. Mais tu étais jaloux parce que tu étais seul. » Eric lui crie, « C'est faux !» Le père leur dit, « Cela suffit. Je vous punis tous les deux. Pas d'argent de poche pendant 3 mois. » Auguste dit, « Souhaitons que le président accepte toujours l'œuf et qu'il veuille nous recevoir, nous inviter dans ses soirées. » Pierre lui dit, « Vous avez entendu ?» Ils ne disent rien. Eric a envie de demander à son père comment était la belle rousse. Frédéric en a assez d'être puni à cause de son frère. Les jours passent. Malgré les malheurs de Frédéric, il a de très bonnes notes. Il est toujours en avance sur son âge, apprend vite et bien. Il n'a pas d'amis et passe des heures à rêver. Il a une vie intérieure très forte. Sur le chemin qui l'amène du lycée à l'appartement de ses parents ou de l'appartement de ses parents au lycée, il y va à pied et en marchant il réfléchit, cela le détend de marcher et lui ouvre l'esprit. ça lui donne une vie intérieure très forte, où il peut réfléchir à des tas de choses, surtout sur sa vie. Il se dit qu'il est peut-être devenu quelqu'un de très fort, mais qui doit être au-dessus des autres, parce qu'il n'est pas fait de la même espèce. Parce qu'il ne se sent aucune affinité avec les autres hommes. Et les autres ne se sentent pas attirés par lui. Bien au contraire. Et puis lui est plus intelligent que les autres. La preuve, il est en avance sur son âge. Il comprend plus vite et mieux que les autres. Non, il n'est pas comme les autres. Ne pas être comme les autres, c'est bien. Mais l'on se sent seul. Peut-être est-il le seul à être comme ça. Si c'était ainsi, je serais bien triste. Il aimerait bien avoir un compagnon comme lui. Une personne qui soit au-dessus des hommes, des autres. Il se dit, si je dois être au service de quelqu'un, ou tant que ce soit d'un surhomme. Il rêve d'une amitié. Où personne n'aurait prise sur eux. D'un ami qui le sortirait de cet enfer où il est. Malheureusement, en attendant, il est tenu par son frère, qui ne peut se défaire de lui, de ses jeux pervers qu'il force à faire. Le viol, ça dégoûte Frédéric. Il aimerait partir, se cacher. L'après-midi, comme il fait beau et doux, il va faire un tour au parc Monceau. C'est calme, et puis il ne risque pas de rencontrer son frère, c'est à l'autre bout de Paris. Il aime se promener dans ce parc, qui est resté à l'ancienne, avec ses allées, ses vieux arbres, ses bosses de terre recouvertes d'herbes. Les gens sont calmes et polis, c'est plutôt des cadres ou des employés de bureau. Frédéric marche tranquillement, il fait soleil, l'air est doux. Du parc, on ne voit pas Paris en construction ou délabré, ni les pauvres airs qui marchent au hasard, l'air hagard. Non, les SDF ne vont pas dans ce parc. Frédéric, chaque fois qu'il quitte ses cours, va, s'il a le temps, ici. Quelque chose attire dans ce parc. Tout en marchant dans une allée, la tête dans ses pensées, le croise un jeune homme en costume beige. Le jeune homme, en le croisant, lui dit « Mais il me semble que je vous connais, vous !» Frédéric rougit, il a reconnu Gilbert. Il a honte. Ah oui, je me souviens. Vous étiez à la soirée que j'ai donnée il y a quelque temps. Frédéric ne dit rien. Gilbert lui dit, oui, je vous reconnais bien. Vous étiez avec votre frère et vous vous êtes battu. Frédéric est tout rouge. Gilbert lui dit, c'est pas grave. Mais qu'est-ce que c'est cette dispute si violente? Frédéric lui dit, mon frère était jaloux parce qu'il était seul et moi j'étais entouré de jeunes filles. Gilbert sourit et lui dit, une histoire idiote alors. Vous vous battez souvent, vous et votre frère? Frédéric lui dit, oui assez, il cherche toujours à me dominer. Il veut que je lui obéisse. Gilbert lui dit, moi j'ai pas de frère. Comme ça, je suis plus tranquille. Vous venez souvent ici? Frédéric lui dit, assez, après mes cours et vous? Moi, mes parents habitent à côté, boulevard Velasquez. Je viens souvent les voir. Enfin, il ne me reste plus que ma mère, parce que mon père est mort et j'ai pris sa place. C'est pas facile. Surtout que je ne voulais pas du tout être PDG. Je rêvais d'être écrivain. Et les choses sont comme ça. Frédéric lui dit, vous avez de la chance. Vous êtes l'homme le plus riche du monde. Gilbert lui dit, pour ce que ça me sert, j'ai pas le temps à moi. Les affaires, toujours les affaires. Voyage, dîner, contrat. Je vois à peine ma copine et mon ami. Frédéric lui dit, tout le monde cherche à vous avoir comme ami. Gilbert lui dit, peut-être oui. Mais ce que je veux comme ami, c'est une autre affaire. Tenez, j'aime une fille, une jeune fille, elle m'aime aussi. Eh bien, sa famille ne me veut pas comme gendre, parce que je ne suis pas assez bien pour eux. Alors vous voyez, en fait, je vis assez seul. Frédéric attend qu'il lui dise, alors soyons amis, mais il lui dit, oui, mais la solitude a du bien. Frédéric se dit qu'il préfère la solitude à l'amitié. Tant pis. Il lui dit, vous avez raison d'aimer la solitude. Ils sont arrivés devant la sortie du parc, avenue Velasquez. Gilbert lui dit, je suis arrivé. Bonne solitude. Et il le quitte. Frédéric, paralysé, bête, le voit s'éloigner. Il se dit qu'il s'est comporté comme un imbécile, qu'il a perdu un ami à jamais. Mais pourquoi n'a-t-il pas dit « Non, je préfère l'amitié à la solitude ». Maintenant, il est trop tard. Il a raté une belle amitié. Quel idiot je suis! Il est triste, triste. Sa tristesse l'amène avec lui. Il est très triste. Il se retrouve seul. Il est sûr que Gilbert, lui, est comme lui, un homme plus grand que les autres, un surhomme. Il s'en retourne désespéré, perdu au milieu des hommes. Quel est l'être qui pourrait être son compagnon? Il se dit que s'il avait pu être l'ami, tout aurait changé dans sa vie. Il aurait été plus fort parce que senti épaulé et plus seul. Et puis vu ce qu'est Gilbert, personne n'aurait pu ou eu le courage de l'ennuyer, même pas son frère. Ils auraient fait un sacré paire d'amis tous les deux. Maintenant, c'est trop tard. rentre chez lui en prenant le métro. Parce qu'il est tard et que le trajet est assez loin. Sur le quai du métro, il y a du monde, beaucoup de monde. C'est la sortie des employés des magasins et des bureaux. Il entre dans une rame de première pour être moins bousculé et réussit à s'asseoir. Là, elle se souvient de la rencontre avec cet homme. Comment s'appelait-il déjà ? Ah, Vouillarmant, je crois. Peut-être un drôle de type. Il doit accoster les jeunes gens comme lui et les mener chez lui. Il est plus à plaindre qu'autre chose. Sa vie doit être drôle, toujours être obligé de se cacher, de cacher ce que l'on aime. Il se dit que peut-être son frère sera comme lui, un pauvre type qui cherchera un compagnon lorsque lui ne pourra plus. Sa vie sera un enfer. C'est peut-être ça, sa punition. Et lui, savait à lui, comment va-t-il la voir ? Il ne la voit pas, puisqu'il se sent mal dans sa peau, mal au milieu de ce monde qui semble pas être le sien. Au milieu de ces gens. Il y a sa famille. Quelle famille ? Qui l'aime dans sa famille ? Par son frère. Parce qu'il sait qu'il l'aime, mais d'une façon contre nature. Ce qui sent son amour impur et pervers, c'est peut-être pour ça que son frère est si terrible avec lui. Peut-être a-t-il honte de ce qu'il se sent obligé de faire par envie. Et sa honte le rend violent contre lui, parce qu'il peut être violent contre lui-même, parce qu'il ne peut être violent contre lui-même. Que faire pour sortir de tout ça ? S'il était adulte, il partirait loin, sans laisser d'adresse, même sans argent, ou il tuerait son frère. C'est pas sûr que plus tard il parte loin, mais qu'il tue son frère, oui. Et il l'aura bien mérité. Mais ça ferait sûrement du mal à mère. Mais mère doit savoir ce qui se passe dans la chambre la nuit, parce que la sienne est à côté de la sienne. Pourquoi ne fait-elle rien ? Ne dit-elle rien ? Est-elle complice ? De toute façon, ils sont tous complices. Tout le monde le sait. Mais pour la tranquillité de la famille, il faut un sacrifice. Une personne à sacrifier. On a décidé que ce serait lui. Et si on regarde bien les choses, mère, elle aussi, est sacrifiée. Ah, on la laisse malade. Personne ne s'occupe d'elle. Ou si peu. Les grands-parents ne vont jamais la voir. Pauvre maman. Et père. Père est un égoïste, un lâche, qui fait tout ce que lui disent ses parents. Le métro s'approche de la station. Il se lève et attend. Une fois sorti du métro, il suit le quai pour remonter à la surface. Il fait encore jour. Ce jour lui fait du mal. Parce que ça lui rappelle qu'il a raté l'amitié de Gilbert. Le seul être qui aurait pu l'aider. Maintenant, il est trop tard. Il va retrouver sa famille. Dans son immeuble, il se dit qu'il aurait pu passer quelques heures de plus dehors par cette belle journée en entrant chez lui avant la nuit. Mais il y a des moments où on a envie de respirer, de rester dehors. Il va prendre son ascenseur. Arrivé à l'étage, il sort de l'ascenseur. Il va sonner à la porte de l'appartement. La porte s'ouvre. C'est la bonne. Bonjour, monsieur. Bonjour. Il entre, elle ferme la porte. Il va à sa chambre. En passant devant la chambre de sa mère, Frédéric, c'est toi ? Oui, maman. Que fais-tu ? Je vais travailler à ma chambre. Elle lui dit : Bon, c'est bien. Puis tout d'un coup, il se dit : Elle a peut-être envie de me parler. Je veux pas rester comme ça. Je veux pas rater ce geste d'affection. Il lui dit, mais ça peut attendre, je peux entrer, maman. Elle lui dit, non, si tu as à faire ton travail, mon petit, il faut le faire. Il lui dit, ça peut attendre. Et il va ouvrir la porte. Entre. Et ferme. La lumière du jour éclaire encore la pièce. Sa mère est sur son lit en chemise de nuit blanche. Ça sent une odeur de tisane et d'alcool de menthe. Il s'approche d'elle. Elle a l'air toute maigre, les yeux fiévreux. Il se penche et lui donne un baiser. Elle lui dit, « Ça fait longtemps que tu n'es pas venu. Tu as grandi, mon garçon. Pourquoi ne viens-tu plus pas si souvent me voir ?» Il lui dit, « On me dit qu'il ne faut pas te fatiguer. » Elle lui dit, « La personne que l'on aime ne fatigue jamais. Comment vas-tu, maman ?» Elle lui dit, « Mon état se stabilise. Je suis toujours aussi faible. Je ne sais pas pourquoi je suis toujours aussi faible. Tu sais, je passe mes journées dans cette chambre, en dehors de tout. J'ai l'impression de n'être plus rien. » Frédéric lui dit, « Mais si, maman, tu es toujours maman. » Elle lui dit, « Si peu, personne ne vient me voir, même pas ton père, est toujours pris dans ses affaires, paraît-il. Et toi, j'étudie. » Ton frère te fait pas trop de mal ? Frédéric rougit et lui dit, « Il a toujours été comme ça. » Elle lui dit, « Il faut lui pardonner. C'est peut-être lui le plus malheureux et tu dois l'aider. » Frédéric lui dit, « En étant malheureux et en acceptant tout de lui ?» Elle lui dit, « Il faut savoir se sacrifier. Regarde-moi. » Il se dit, « Elle veut que son fils devienne... » la chose de son frère, et que son frère, qui doit se sacrifier à son frère, pour qu'il soit heureux, lui, il lui dit, et moi, qui fera quelque chose pour moi, pour que je sois heureux. Elle lui dit, tu es bien jeune. Il lui dit, mon frère aussi. Et je dois être sa victime? Pourtant, il n'y a que 2 ans de différence. Elle lui dit, c'est comme ça. Le hasard l'a voulu. Comme moi, il a voulu que je sois enfermé jusqu'à la fin de mes jours ici, dans cette chambre, seul et souffrir. Il lui dit, tout ça, ce n'est pas juste. Le hasard a bon dos. On peut changer les choses. Ne pas se laisser aller. Toi, tu pourrais crier que tu veux voir un autre médecin pour aller à la clinique au lieu de te taire et de te laisser assassiner. Elle lui dit, toi, mais tais-toi, tu dis des horreurs, ta famille ne tue personne. Il lui dit, si, toi et moi aussi. Et tu le sais très bien. Mieux que moi. Mais tu acceptes parce que c'est la famille. Moi, je te jure que dès que je peux, dès que je suis en âge, je me venge. Elle lui dit, tu n'en as pas le droit. Il lui dit, lui non plus de jouer et de faire ce qu'il fait. Et eux non plus de faire ce qu'ils font. Elle lui dit, tu es un monstre. Va-t'en. Va-t'en. Il lui crie, ce sont eux, pas moi. Et il la quitte. Désormais, il sait qu'il ne peut compter sur personne. Il sera toujours seul. Ça l'isole et se sent attaqué de toutes parts par les autres. Les autres, c'est devenu pour lui l'ennemi à abattre. Il se met à voir les gens comme s'ils étaient une espèce nuisible à abattre pour qu'ils puissent vivre. Mais il est trop jeune et faible pour les abattre et c'est lui qui subit. Il se dit que décidément, il n'est pas comme eux, qu'il est supérieur à eux et s'enferme de plus en plus. Pourtant, une chose lui fait mal, c'est sa mère. Il aimerait pouvoir lui parler, lui expliquer ce qu'il ressent pour elle, qu'elle l'aime et soit de son côté. Mais il ne peut pas la voir. On en empêche. Les domestiques ont reçu des ordres. Chaque fois qu'ils le voient aller chez elle, ils lui disent « Madame, monsieur ne peut recevoir de visite. » Ou « C'est sa grand-mère. » Laissez votre mère en paix, elle a besoin de repos. Bien sûr, il pourrait passer outre, mais c'est pas simple. Et puis, il désire la voir et se sent gêné d'aller la voir parce qu'il ne sait pas comment lui parler. Sa mère, malade, très souffrante, elle doit être et ne peut être qu'à milieu de ses peines. Elle lutte contre la douleur, la mort. Alors les états d'âme d'un jeune adolescent. Un jour, la grand-mère embauche une nouvelle bonne et pour la loger, elle a besoin d'une chambre. Elle dit durant le dîner que les deux garçons coucheront dans la même chambre. Ce sont des garçons, ça ne gêne pas. Eric, tu coucheras dans la chambre de Frédéric. Eric demande « Et pourquoi est-ce que Frédéric ne coucherait pas dans la mienne ?» Sa grand-mère lui dit « Parce que ta chambre est plus petite. » Frédéric est furieux. Il aura constamment son frère. Nous vous avons présenté, dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre, La spirale de verre. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.